Dans cet épisode, découvrez la notion d'essentialisme. Comment devenir et incarner un essentialiste selon le célèbre livre de Greg McKeown. Vous y découvrirez un plan d'action en 3 étapes et des règles simples à mettre en application, illustrées d'exemples pour vous aider à aller toujours plus vers l'essentiel et à vraiment réaliser et incarner le quotidien, la vie de vos rêves. Tous les livres dont nous parlons sur ce podcast sont disponibles dans les descriptions des épisodes, notamment l'essentialisme pour cet épisode. Vous aurez un lien dans la description qui vous enverra directement vers ce livre si vous voulez vous le procurer. Et en achetant via ce lien, vous nous permettez de soutenir le podcast et de pouvoir le financer. Donc merci à vous pour ceux qui achèteront via ce lien. Cela nous aide énormément. Et comme vous le savez, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur iTunes ou encore Spotify. Et si vous avez des questions ou un commentaire, vous pouvez le faire via le site internet du podcast sur crystalatique.fr/podcast. Un grand merci pour votre soutien et sans plus de bavardage, je vous laisse avec le générique.
Bienvenue dans un nouvel épisode d'AutoStorm. L'idée de cet épisode est de vous partager nos trucs et astuces en termes d'organisation, de productivité, mais pas que. C'est ici que Sylvain et moi vous partageons tout ce qui se passe dans nos têtes. Réflexions, tergiversations et idées que nous avons prises en stop ou pas. Les pourquoi de leurs réussites comme leurs échecs. Bref, notre vie d'entrepreneur pas toujours organisée. Un seul maître mot, action. Alors si vous avez envie d'entrer dans nos têtes, c'est par ici. Nous,
c'est Christelle
et Sylvain.
Un duo d'atypiques complètement chelou. Sylvain est un ancien contrôleur de gestion, ouch, devenu coach de vie, écrivain et storyteller. Et oui, rien que ça. Sylvain souhaite vous aider à mettre des mots sur vous et vous aider à partager votre expérience au plus grand nombre. Et moi, une ancienne chercheuse qui cherche encore un peu sa voix, c'est pour ça que je suis devenue organisatrice d'intérieur et facilitatrice de vie, pour m'organiser de l'intérieur et m'épanouir à l'extérieur. Mais le mieux, c'est de vous laisser découvrir notre univers. Voyez cette capsule comme un bon moment entre amis, un bon verre à la main, et une ambiance musicale funky. Alors maintenant que le cadre est posé, nous vous proposons de commencer.
Bonjour Christelle.
Bonjour Sylvain, bonjour à toutes.
Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel AutoStorm. Consacré à un sujet, moi, qui me parle beaucoup, c'est le sujet de l'essentiel. Comment être sûr qu'on va à l'essentiel dans sa vie pour avoir une vie qui nous épanouit au maximum. Et là-dessus, Christelle nous a fait le cadeau de lire un livre qui va lui aussi à l'essentiel, qui s'appelle, je crois, L'essentialisme, c'est ça ?
C'est ça.
Et de qui est l'auteur ?
De Greg McKeown.
Voilà. Et donc, ce livre-là, tu m'as dit qu'il était extrêmement riche et que limite, le livre fait 250 pages, mais que si on voulait prendre des notes dessus, on recopierait presque le livre en entier, tellement chaque phrase est hyper inspirante. Et donc là, ce qui m'intéresse vraiment, et je pense qu'il peut vraiment intéresser nos auditrices aujourd'hui, c'est que tu nous parles de certains points qui t'ont marqué dans le livre et qui pourrait du coup nous aider à aller à épurer notre vie pour être sûr qu'on va à l'essentiel et qu'on maximise notre bonheur, tout simplement.
Waouh, super, quelle grande mission. Et ben, j'ai envie de commencer par une question, Sylvain, qui est comment sais-tu si tu es réellement
efficace, essentiel au quotidien?
Alors, moi, par rapport à ça, à chaque fois, je me dis, tu sais, quand je dois faire une activité au quotidien, je me dis, il y a deux choses. Il y a à la fois les échéances, les deadlines extérieures, donc les échéances extérieures qui me sont fixées. Et en plus, le paramètre de mon état physique qui va me dire, tu sais, de l'intuition presque, qui va me dire, là, j'ai envie de faire ça. Donc, à la fois, j'ai des demandes de mon corps et en plus, j'ai des demandes extérieures. Et j'essaye du coup de prendre en compte ces deux paramètres-là pour faire des activités qui vont soit satisfaire mon être sur le moment, ou soit qui vont contribuer à me permettre de satisfaire des échéances extérieures auxquelles j'ai accepté de répondre, tu sais, rendre tel travail tel jour, etc. Voilà comment je fais en gros.
Ok, eh ben, écoute, super. Mon objectif avec cette question était d'identifier de quel côté tu te situais sur un profil de non-essentialiste versus un profil d'essentialiste, à savoir que la majorité d'entre nous sommes du côté non-essentialiste, où on va avoir ce sentiment d'être débordé, épuisé, à courir après le temps, à avoir plein de responsabilités, de casquettes, à avoir aussi ce sentiment de perdre le contrôle de sa journée, de sa vie, avec cette notion où on va s'y prendre au dernier moment, on va être sursollicité et on aura tendance à dire oui à toutes les propositions, les opportunités, de trouver tout important et d'essayer de trouver du temps pour tout. Et du coup, de passer son temps à être oppressé, à vouloir faire plaisir à tout le monde et en même temps à vouloir plus ou moins aussi se faire plaisir. Mais comme on a, étant donné 24 heures, c'est défini et c'est comme ça pour tout le monde. Et bah, des fois, voilà, on est un peu pris de court. Et donc, ça fait vraiment une espèce de pelote de laine en mêlée dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Et ça, ça va être versus le profil essentialiste qui, lui, au contraire, son dicton, c'est de dire non systématiquement à 90% des choses qui se présentent à lui, même si c'est des belles opportunités. Donc, c'est aussi savoir dire non aux belles choses en se disant qu'il y aura une chose idéale qui va se présenter plus tard. C'est aussi réfléchir aux choses importantes dans sa journée, dans sa vie, et se demander à quoi renoncer, à quoi je peux renoncer à ce moment pour être mieux, pour être focalisé sur ce qui a de l'importance dans mon quotidien. Ça va être le prendre le temps justement de déterminer cet important, cet essentiel, et justement d'écarter les obstacles, de faciliter l'action et de créer ce sentiment de maîtrise, de satisfaction et d'épanouissement parce qu'on aura fait des choix en conscience pour soi en mettant en place de stratégies réfléchies et logiques. Et donc, c'est ça un peu tout ce que va présenter ce merveilleux livre qui est très dense. Ça va être à chaque fois de nous confronter à ces deux profils et de savoir dans quelle situation on se trouve à chaque fois. Avec cette notion de, comme je disais, le non-essentialiste, il est dans une pelote de laine emmaillotée. Et donc, sa seule obsession, c'est d'arriver à destination. Et donc, il est toujours focus sur la destination. Et donc, un peu dans un mécanisme d'automatisme et de choix par défaut et d'être un peu en réaction par rapport à ce qui se présente dans sa vie. Alors que l'essentialiste, il va avoir sa flèche, sa ligne droite tracée. Donc, c'est son fil de pelote de laine, mais qui est démêlé, qui est droit à plat. Il sait vers quelle direction il va. Ses choix sont réfléchis et conscients et il fait tout de manière délibérée. Donc, il est vraiment dans cette prise d'être acteur de sa vie. Et donc, lui, ce qui l'importe, c'est pas forcément la destination, c'est le chemin. Et donc, il va prendre plaisir à se focusser sur le chemin.
Waouh! Bah, hâte du coup de savoir les premiers, ouais, les astuces qu'il donne par rapport à ça.
Oui, et du coup, l'auteur nous donne un plan d'action à suivre pour devenir essentialiste et faire de son quotidien un essentiel.
Et donc, ça va être vraiment l'objectif de mettre son énergie et son temps dans les bonnes activités et se concentrer sur l'essentiel pour apporter la meilleure contribution possible. Et donc, les fameuses bonnes choses, eh ben, c'est à vous de les déterminer. Chaque chose, activité, sont propres à chacun, mais il y aura ce temps de réflexion à mettre en place pour trouver cet essentiel et cet important. Et ça, c'est tous les jours que ça se fait. Et un exemple de personne qui faisait ça, c'est de mémoire Bill Gates. Je crois qu'il le fait toujours. Il a 2 semaines par an où il appelle ça les Think Weeks, où il va se retirer pendant 1 semaine et il profite de ce temps-là pour réfléchir, pour penser à la vie, pour penser aux prochaines actions qui seront les plus profitables à sa vie, à son activité professionnelle, à lire des livres pour se ressourcer, se recentrer sur l'important.
Donc, le premier conseil qu'il donne pour savoir qu'est-ce qui est important, c'est du coup de s'offrir des moments de réflexion ou de silence au milieu de l'activité quotidienne où tu disais on court toujours à droite et à gauche. Et là, du coup, une étape qui peut être intéressante, c'est de se poser, soit seul, soit par exemple avec un coach ou une personne ressource en tout cas, pour se demander qu'est-ce qui est important dans ma vie finalement, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est une des premières étapes. Mais avant de continuer sur les étapes, j'aurais voulu préciser le paradoxe du succès. Donc, c'est un point important qu'il décrit dans son livre, qui dit en gros que on a quand on va être par exemple embauché dans une entreprise, on va avoir un objectif clair. On nous embauche pour atteindre un objectif. Et du coup, une fois que cet objectif il est atteint, on a une victoire, on acquiert une certaine notoriété au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise, et donc on va devenir le collègue un peu référent, le collègue sur qui on peut compter. Et donc ça va nous apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles responsabilités, mais aussi de nouvelles sollicitations. Et donc là, on va avoir tendance à s'éparpiller, à dire oui à tout bout de champ pour être ce fameux collègue sur lequel on peut compter. Et on va se retrouver finalement débordé par plein d'activités non essentielles qui vont du coup réduire notre efficacité et notre productivité et qui vont nous faire perdre. En fait, tout ça nous a fait perdre de vue l'objectif premier. Et donc, d'être essentialiste, au final, c'est un peu sortir de ce paradoxe du succès où on se rend indispensable parce qu'on a accompli plein de choses. Et donc, on va déconstruire ça en se retirant, en fait, des sollicitations, etc., pour retrouver l'essentiel et au final, retrouver une notoriété et un respect face à ses collègues et à son équipe parce que on aura retrouvé l'objectif de base ou un nouvel objectif, mais du coup, on sera resté sur l'essentiel. Et donc, même si notre notoriété, elle sera plus comme vue comme le bon collègue sur qui on peut compter, mais elle sera un peu comme l'expert du mec voilà, qu'on ne va pas embêter parce que c'est l'expert, mais quand on le sollicite, on sait que ce pourquoi on le sollicite, il sera expert et ça sera bien réalisé. Ouais, donc, c'est un peu voilà, sortir de ce paradoxe.
Ouais, tu vois, est-ce que moi, pour me motiver à faire ça, du coup, d'après ce que tu me dis, je me dis en fait de penser en mode long terme. C'est-à-dire qu'à long terme, si au début donc j'ai du succès et que j'accepte après tous les trucs parce que je veux être le mec sympa qui va fluidifier la vie des gens en qui on peut compter, mais que je me rends compte que le projet, certains projets vont moins me plaire ou j'ai plus avoir le temps pour le faire et donc je vais décevoir finalement par rapport aux exigences que j'ai, et ben je me dis à long terme, si j'accepte tout, et ben finalement je vais me décevoir, je vais décevoir les autres. Et donc, ça ne va pas être satisfaisant pour moi. Donc, c'est un peu, tu sais, une motivation que, d'après ce que tu me dis, que je veux utiliser pour me dire, pour apprendre à dire non, à mettre des limites.
C'est ça, parce que du coup, dans cette quête du succès, et ben, en tout cas, dans ce paradoxe qu'on a évoqué, ben, ça va être, mettre toujours plus de choses dans son agenda, donc la quête du toujours plus, la quête de trop de choix et du coup entraîner une fatigue décisionnelle. On va avoir une pression sociale de se dire bah faut que je sois à la hauteur de toute la confiance, tout le respect qu'on me donne. On va avoir aussi la surcharge d'informations, d'opinions, de vouloir tout faire, d'être présent à tous les fronts. Et donc ça vient nourrir des peurs un peu comme la FOMO, la peur de manquer des informations, la peur de pas être accepté, etc. Et tout ça, en fait, c'est un effet boule de neige qui, au final, nous entraîne vers la pente de l'échec, alors qu'au début, notre objectif, c'était le succès. Et ça peut aller plus loin, en fait, si on met ça à l'échelle d'une vie, où une étude a été faite sur les 5 plus grands regrets d'une personne quand elle arrive à la fin de sa vie. Et un des premiers qui arrive en tête, c'est le regret d'avoir de ne pas avoir vécu sa vie et d'avoir plutôt vécu la vie que celle que les autres personnes auraient voulu qu'on vive. Et donc ça, c'est un regret qui arrive en tête d'affiche. Et donc, cette quête de toujours dire oui et d'être toujours non essentiel au final, d'être dans le plus, ça peut nous amener à créer des regrets parce qu'on se sera complètement perdu dans toute cette quantité de trop.
Et je crois qu'un autre regret parmi les 5, c'est de ne pas avoir connu plus tôt le podcast des Farpettes. Je crois que si ma mémoire est bonne.
Il me semble qu'il y avait ça, ouais. Mais ça devait être écrit en petit, tu sais, petit caractère en dessous. Là. Signé Quanon.
C'est grave. En plus, ça me fait penser aussi à... dans Communication non violente, il parle beaucoup de quand on veut accélérer. Parce qu'en fait, tout ce que tu as évoqué, ça me faisait penser un peu à une machine qui s'emballe. Tu sais, qui commence à marcher et après... Et dans la communication non violente, ils disent quand vous voulez vraiment commencer à vous précipiter, à aller là, il faut que j'aille là, et dit ralentissez, faites une pause. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est des moments charnières où on passe de la présence efficace à l'emballement. Et en fait, quand on sent qu'on est dans l'emballement, ça me fait penser à ce que tu disais au départ sur les personnes qui sont non essentielles. C'est plutôt au niveau mental de vouloir rejoindre l'arrivée plutôt que de profiter du chemin. Et en fait, dès qu'il y a de l'emballement, on sent qu'on est vraiment dans la tête, qu'il n'y a que le chemin, qu'il n'y a que l'objectif qui compte et qu'on n'est plus du tout à savourer le paysage et ce qu'on est en train de faire, l'action et tout. Donc, ça me fait penser à ça. Se dire, dès qu'on a envie de... On sent qu'on est en mode frénésie, qu'on veut aller trop accélérer, ne pas hésiter à ralentir et voir ce que ça donne, de faire 5 minutes de pause. Et parce que peut-être on se dira, ah ouais, finalement, je me sens mieux quand même. Je me sens plus serein, ouais.
C'est exactement ça. Et donc, pour atteindre cet objectif d'être essentiel, essentialiste dans sa vie, c'est pas moi qui ai choisi l'exemple, mais il était nickel. C'est l'armoire de votre vie, l'armoire de sa vie. Et donc, c'est vraiment d'imaginer son armoire de vêtements qui est pleine à craquer de plein de vêtements qu'on a depuis des années ou qu'on achète au fur et à mesure, dont une partie qu'on n'a jamais mis. Je peux même aller plus loin avec des vêtements dont on n'a jamais porté, qu'on n'a jamais porté et qui portent encore l'étiquette avec le prix, etc. Et donc, du coup, tout ça au fur et à mesure des années, ça va être une sorte de débarras où s'accumulent les vêtements et qu'un jour, ça va déborder et qu'on va se dire « bon, je vais faire un peu de tri ». Voilà, on va se dire « bon là, il faut que je fasse un peu de tri ». Et vous allez procéder un peu à l'aveugle, là, à l'aveuglette, sans vraiment de méthode ou de stratégie. Et vous allez réussir à faire un peu de tri, un 10% qui sera parti, enfin qui sera sorti de l'armoire. Mais du coup, le bazar va revenir très rapidement parce qu'on n'aura pas eu de méthode, de plan d'action, on ne sera pas allé jusqu'au bout. Et on aura aussi été confronté à plein de choses. Par exemple, faire du tri, quand il y a trop de choix, trop de choses possibles, ça rend les choix difficiles. Ça révèle aussi des regrets de se dire « Ah, mais ça, si je le donne, j'aurais peut-être envie de le mettre plus tard. » Ou si vous avez déjà donné quelque chose, vous regrettez parce que vous aurez voulu encore l'utiliser. Ça va vous créer ça va vous chambouler en vrai, ça va vous forcer à aller regarder à l'intérieur ça va vous demander de savoir ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Et donc, tout ça, en fait, c'est une véritable introspection. Et en plus de faire ce tri, c'est par définition, du coup, de faire du vide. On va créer du vide, on va créer de la place. Et face à cette situation, on va avoir, en tout cas, moi, je peux illustrer avec deux clientes que j'ai eues. On va avoir la cliente qui a la peur du vide et qui va s'empresser d'aller racheter des vêtements et des choses pour recombler le vide qu'elle aura créé. Et donc, elle va se remettre dans la boucle de non-essentialiste. Et à l'inverse, une cliente qui a créé du vide, qui a été confrontée, parce que du coup, quand on crée du vide et la peur du vide, c'est rien. C'est en gros, on se retrouve tout seul face à nous-mêmes. Donc, c'est se confronter à soi-même. Et elle, à l'inverse, elle a fait du vide et elle est arrivée à un point où elle s'est tellement ressourcée que ça lui a fait tellement de bien de se retrouver, de se reconnecter à elle, qu'elle ne cesse de faire du vide au final. Elle est toujours, toujours à faire du vide et à limiter les choses qui peuvent la remplir parce qu'elle a envie de continuer à être en connexion avec elle-même et à se ressourcer, se reconnecter. Donc, on peut avoir différentes réactions face à ce vide, à ce tri qu'on est en train de faire. Et c'est là, en fait, que ça va se jouer, de basculer du non-essentialiste à l'essentialiste.
Et l'accompagnement, toi, du coup, l'accompagnement que tu proposes, ça peut quand même être un soutien pour les personnes qui, au début, ont peur, par exemple, de faire du vide. Et peut-être que d'être avec toi, accompagné par une personne comme toi, ça permet de mieux traverser cette incertitude, non ? Ce changement, ce nouveau état intérieur ?
Oui, totalement. Parce que du coup, c'est le prochain point. Ça permet de structurer, d'avoir une méthode, d'avoir une stratégie d'approche, un plan d'action qui fait que on sort du mental pour aller vraiment chercher l'intérieur, mais chercher l'intérieur selon un processus. Et donc, du coup, ça devient un peu plus simple. On est moins dans la résistance parce qu'on se dit, bon, je suis à l'étape 1, ok, je vais à l'étape 2, je vais à l'étape 3, etc. Et donc, ça permet de se structurer. Au début, c'est comme tout, hein, c'est le temps de déconstruire les anciennes habitudes pour mettre en place de nouvelles habitudes. Et donc voilà, c'est vraiment de se créer un plan d'action. Et le fameux plan d'action proposé par l'auteur, il est d'une simplicité incroyable. On ne peut pas faire plus simple. Et en plus, c'est ce qui est pratiqué en séance de home organizing notamment. Les trois étapes sont simples. C'est examiner, éliminer, réaliser.
Examiner, éliminer, réaliser.
C'est ça. Et donc, dans examiner, on va avoir toute la partie de choix. Donc, on va dire que le gros de la partie examiner, ça va être de faire un choix. Alors, on a plusieurs méthodes pour prendre une décision et pour faire un choix. C'est bien sûr ce choix, il va falloir qu'il soit structuré pour qu'il soit pareil, le plus simple, le plus efficace, le plus facile pour nous. Et une des méthodes implacables, c'est la règle des 90%. Alors, je vais illustrer ça avec un recrutement. Donc, vous avez besoin de recruter quelqu'un pour votre entreprise. Et donc, on a un panel de CV. Et là, on peut noter de 1 à 10 les CV en fonction du poste. Mais bien sûr, donc il y a la fiche de poste à côté, mais il va falloir peut-être sélectionner des critères indispensables. Donc voilà la base minimum à avoir et la base maximum à avoir. Vraiment, ça, c'est le top du top si on arrive à cocher ça. Donc déjà, vous avez des critères de base à identifier. Et après, avec ces critères de base, vous allez pouvoir noter de 1 à 10 chacun des CV ou des entretiens, peu importe à l'étape à laquelle se trouve. Et en gros, on va avoir la partie des 9-10, où là, c'est très bien. On va avoir la partie des 8 à 6, où là, c'est moyennement bien. Et après, en dessous de 6, on va dire que ça ne correspond pas à l'offre. Et donc, en gros, ben, tout ce qui est en dessous de 6, vous éliminez d'office. Ça ne correspond pas. De 9 à 10, ben, c'est pile poil dans ce que vous recherchez. Donc, vous prenez. Et après, il va rester la fameuse zone des 8 à 6. Enfin, ou des voilà, entre 9 et 6. Et cette zone-là, en fait, on va passer bien souvent énormément de temps sur cette zone-là à se dire « oui, alors c'est pas tout à fait ça, mais quand même, ça se rapproche du 9 » ou à l'inverse « ah, c'est plus du 6, donc c'est pas tout à fait ça ». Et en fait, on va perdre du temps sur cette zone-là à se dire bah, « qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je prends pas de cette zone ?» La réponse est simple, vous ne prenez rien. Pourquoi vous contenter de quelque chose qui n'est pas idéal. C'est comme si vous avez une chaussure qui fait du 40 devant vous, là, et que vous essayez de rentrer un pied qui fait du 42. Ben, pourquoi essayer ? Ça ne correspond pas. Et en plus, c'est se contenter de prendre un peu les miettes. Donc, la règle des 90, c'est de se dire que tout ce que je n'aime pas à 90%, entre 90 et 100%, c'est automatiquement non, c'est rejeté et ça va à la poubelle ou c'est refusé ou voilà.
Et s'il n'y a donc, pas de 90, 100, s'il n'y a personne dans ce...
On prend rien. En fait, c'est ça, c'est une sorte de critère très strict de se dire, ok, déjà j'ai ma liste de critères, soit la personne elle coche les critères, soit elle coche pas les critères. Et de pas descendre en dessous de 90. Et donc quand par exemple, si je reprends l'exemple de l'armoire, quand on va se demander qu'est-ce que je garde de ce que je garde pas, eh ben on va aller plutôt chercher des questions qui sont du style est-ce que ce vêtement me va vraiment bien ? Et donc là, s'il me va à 70%, on élimine. Est-ce que j'aime vraiment ce vêtement ? C'est soit oui, soit non. En fait, c'est ça, c'est de plus se dire oui, ça peut un peu correspondre. Et c'est sortir de ce demi-temps et de se dire il faut un oui ou il faut un non. Et du coup, pour créer ça, bah, il y a la règle des 90 où on va trancher tout de suite. Est-ce que j'aime vraiment ce truc-là ? Oui, non. OK. Si je l'aime à 80%, non. Bah, hop, j'élimine. Et du coup, c'est peut-être dur à prendre comme rythme au début d'être aussi strict et radical, mais au final, ça facilite énormément la vie. Et donc, du coup, c'est un peu la règle de Pareto où on va se focusser. Là, c'est même pas sur les 20%, c'est sur les 10% des actions à mener qui vont engendrer 90% des résultats. C'est un peu ça, l'équivalent. Et donc, c'est à chaque fois de ne plus se contenter d'un truc moyennement bien. C'est d'aller toujours chercher l'excellence, quitte à faire des sacrifices dans le sens où s'il n'y a pas, il n'y a pas. Et je suis OK avec ça, d'attendre qu'une nouvelle opportunité se présente. Et donc, ça aussi, c'est un peu compliqué au début à accepter.
Ouais, c'est ce que tu disais au départ. Tu disais, ouais, ils sont les essentiels, ils sont prêts à attendre, etc. Si jamais la bonne opportunité n'est pas encore là. Et ça me fait penser, tu vois, et en plus, ce que tu dis, ça me touche beaucoup. Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, moi, sur notamment au niveau des relations humaines, où des fois, il y a des gens qui vont être gentils, tu sais, qui peuvent être gentils, mais tu as plein de trucs à côté qui te titillent. Tu te dis, ouais, cette personne, elle est sympa, mais là, je sais pas, des fois, elle se braque sur tel sujet. Des fois, elle est négative sur d'autres. Et c'est pas totalement sain, tu sais, comme tu aimerais que ça soit. Et parfois, moi, avant, je pouvais me dire, par rapport à 80% de la société, qui sont très négatifs, beaucoup plus négatives, c'est quand même cool d'avoir ce type de personnes. Mais en fait, après, quand je me suis rendu compte des impacts que ça a de gérer les moments où les gens sont violents, où ça te laisse un truc bizarre, même à gérer, ça te gâche un peu tes moments présents, parce que tu peux penser à telle réflexion, tu dis, tiens, c'est bizarre, cette personne, elle me fait une réflexion, je me suis pas senti bien avec elle, mais pourtant, je sais que c'est une personne qui est sympa, parce qu'elle a quand même été là à tel moment de ma vie, elle m'a aidé pour ça. Et du coup, ça t'entraîne un peu à des questionnements qui te plombent un peu après les moments, à la fois les moments de partage avec ces personnes et même les moments d'après où ton cerveau mouline ces trucs-là. Alors que je trouve que quand tu fais que les 90 dont tu parlais, 90-100, c'est tellement limpide que non seulement les moments, genre tu prends l'exemple des vêtements, Non seulement quand t'as le vêtement, bah t'es trop bien dedans, tu dis, tiens, je suis bien, je kiffe et tout. Et en plus, après, une fois que t'as remis ce vêtement, tu l'as mis au linge sale ou ailleurs, t'y penses plus en fait. Tu te dis pas, ah, ça te garde pas dans la tête en disant, mais peut-être que, est-ce que je le jette ou je le jette pas? Est-ce que. Et en fait, quand ça te satisfait pas totalement, je trouve que ça te suit. Les questionnements te suivent et te gâchent les moments d'après. Et moi, ça va être des trucs que je vais me dire pour me conforter dans le fait de faire du 90-100. C'est de dire que c'est pas anodin de faire moins, en fait.
Exactement. En vrai, la notion d'essentialiste prédit, en tout cas, le dit en tout cas, qu'il existe de manière incontestable, une prévalence de l'insignifiant. Que en gros, 90% des choses qui nous entourent sont insignifiantes pour nous et ne sont pas importantes et essentielles. Et donc, notre quête d'essentialiste, ça va être au quotidien d'aller chercher l'essentiel et donc ces fameux 10% dans tous nos domaines de vie. Ça peut être dans les relations, donc faire le tri dans ses amis, dans ses affaires, dans ses projets. Par exemple, même si on est en salarié en entreprise, que votre supérieur arrive avec un projet qui vous donne un projet à réaliser, eh ben là, ça va être de dire, OK, est-ce que j'ai du temps à accorder à ce projet? Ou est-ce que, voilà, je suis déjà OK dans mon temps, que ce que je fais, c'est déjà bien, j'ai encore la faculté de le produire de bonne qualité? Et donc là, quand elle va vous tendre le dossier, de dire, je te fais ce dossier-là, votre rôle, ça va être, OK, quel autre dossier je peux lâcher ou remettre à plus tard? Donc déjà, là, ça remet en cause un peu le patron qui se dit, ah, OK, il me donne une information importante. Ou sinon, ça va être, OK, mais moi, je suis prêt à prendre X ou X actions. Et par contre, les Y autres actions, est-ce que toi, tu es prêt à les prendre? Et d'aller toujours, en fait, soit chercher un compromis, mais dans le sens où c'est pas vraiment un compromis négatif, c'est vraiment de prendre les tâches pour lesquelles on se sent à l'aise de les réaliser, qui ne va pas impacter le reste du travail, qu'on va pouvoir faire dans de bonnes qualités et efficace, et être efficace sur ces qualités, ou à l'inverse, de dire, je veux bien prendre ce dossier-là, mais par contre, je laisse de côté tel et tel dossier, ou je les retarde, voilà, pour plus tard, une fois que ce dossier-là sera clôturé. Sinon, voilà. Et ça montre aussi ce respect, cette qualité de service que vous avez envie de proposer dans votre travail. Et donc, au final, pour moi, ça traduit un certain professionnalisme.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouve que de choisir les fameuses 90 personnes, enfin les 10% des personnes avec qui c'est génial, même au travail, dans toutes les sphères de sa vie, je trouve que c'est clé dans mon sens parce que après, avec les vraies personnes, quand on sent bien à l'aise et où il y a toujours de la discussion et on peut s'ajuster, on sent qu'il y aura toujours de l'intelligence et de l'intelligence de cœur. Et tu sais, tout de suite, tu sais que toi, tu te dis, je sens que si je me sens pas bien, je pourrais lui partager, que la personne saura l'écouter et qu'à la fin, on saura trouver un accord qui nous va tous les deux. Ou si on sent que finalement, là-dessus, on pourra pas trouver un truc qui nous va tous les deux. On se dira juste là-dessus on peut pas on va pas collaborer ensemble, sinon il y en a un des deux qui va être déçu. Mais au moins avec les gens avec qui on est bien, on sent qu'on pourra toujours parler de tout. Et ça, je trouve que ça rend la vie mais tellement magnifique que pour moi maintenant c'est la clé, tu vois, c'est les 10% des gens avec qui tout est positif. Et après yalla.
Monsieur Sylvain l'essentialiste parmi nous.
Je crois que nous avons un essentialiste au téléphone. Bonjour monsieur. Ouais, merci beaucoup Christelle.
Ça m'a fait rire parce que t'as encore bugué là. Mais on a compris. L'essentialiste au téléphone.
Nous avons récupéré notre auditeur au standard. Oui, bonjour, excusez-moi. Oui, donc ouais, j'ai kiffé cet épisode. Franchement, ça m'a... Waouh. Et je pense que nos farpettes à l'autre bout, ça a dû... je pense qu'il y a des questions qui ont dû se poser sur des choses, des fois, qu'on hésite à mettre de côté et que je pense qu'elles auront envie, elles aussi, d'être plus sélectives, du coup.
Voilà, c'est ça. Et donc là, du coup, on a... J'ai détaillé, on va dire, l'examiner. Donc, c'est vraiment le côté choisir et parce que c'est la première clé, en fait, pour devenir essentialiste. Et on le disait, la deuxième étape du plan d'action, c'est éliminer. Et donc, dans éliminer, bah, il y a, en tout cas, dans mon jargon, il y a faire sortir la moisson. Une fois que vous avez vos piles de choses à garder, à donner, à vendre, etc., bah, ça, c'est d'aller au bout et de vraiment faire sortir ce qui est à donner, à éliminer, etc. Et donc, c'est dans cette partie-là qu'on apprend à dire non. Donc, à la fois de laisser partir les choses, de ne pas prendre les opportunités, même si elles sont énormes, et de se dire que la prochaine va arriver, et d'apprendre à dire non. Et aussi la notion de se désengager. Donc, si vous avez l'impression d'être engagé de partout, que vous avez 3 rendez-vous sur le même créneau horaire, bah, d'apprendre à défaire ce mécanisme-là pour avoir une chose à la fois. Et donc, c'est vraiment de passer de ce côté multitâche à monotâche. Je fais une chose à la fois, mais je sais qu'elle sera très bien faite et qu'elle sera de qualité. Et après, sur la partie réalisée, eh ben là, ça va être vraiment de dérouler votre plan d'action, parce que dans l'étape 1, vous avez identifié clairement vos critères, vos objectifs, la direction que vous voulez prendre, et vous aurez éliminé tous les obstacles, les freins, vous aurez appris à dire non, à vous positionner pour garder un travail de qualité. Et en troisième position, bah, ça va être de dérouler le plan, donc vraiment ce côté réalisé, et donc avec la notion de se préparer, donc dessiner tous les scénarios possibles, donc du pire au meilleur, comme ça vous parez à toutes les opportunités, à toutes les situations qui peuvent se présenter, et en utilisant les fameuses 12 lois de la productivité, comme par exemple rajouter 50% de son temps sur une action, parce qu'on a toujours tendance à trop réduire, à limiter, à se dire qu'on va le faire vite alors que ça ne va pas être le cas, et à faire simple. Dans tous les cas, simplifier, simplifier, simplifier.
Franchement, je trouve ça magnifique. Et je ne sais pas s'il en parle, parce que aussi, de vouloir travailler ou de côtoyer les 10% meilleurs, comme dans le cas de l'entreprise, ce qu'il faut, je trouve, ce qu'on oublie parfois de préciser, mais peut-être qu'il l'évoque, lui, c'est que ça oblige à être la meilleure version de nous-mêmes. Parce que les gens qui sont pareils, qui sont exigeants, ils vont vouloir du lourd en face. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on reste avec du moyen ou machin, parce qu'il y a des trucs en nous qu'on ne veut pas forcément travailler, et on accepte des gens avec des défauts parce qu'on veut qu'ils nous acceptent avec nos défauts, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire, OK, si on veut vraiment les 10%, le haut du panier dans tout, et bah de pas hésiter à faire l'analyse de soi-même pour se dire, moi, pareil que les vêtements ou autres, quels sont les traits de ma personnalité que je veux voir mourir parce que je suis plus trop à l'aise avec ça, par exemple, à tout le temps commencer à me mettre en colère pour pas grand-chose ou à me victimiser d'entrée de jeu, etc. De faire vraiment l'inventaire de quels sont les parts en moi que j'adore et que je veux cultiver. Quelles sont les parts en moi que j'aime moins, et ça, je vais mettre ça de côté. Ça rappelle le livre de Olivier Clerc sur le trapèze, lâcher ce trapèze et attraper le suivant, où il disait, notamment, il parlait du bardo qui est dans le bouddhisme, les moments de la mort, et il dit, mais la mort, ça a des bons côtés aussi, parce que c'est faire mourir certaines choses en nous, mais donner vie à des nouvelles choses en nous, de faire une mue, presque. Et du coup, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que pour aller à l'essentiel, ça demande autant de choisir autour que de choisir en soi pour que les gens, le high level, se soient hyper contents de nous côtoyer, tu vois.
Devenons le high level de notre vie.
Grave, ça fait un slogan, quoi. Qu'est-ce que tu penses comme mot de la fin ?
Alors, devenez essentialiste.
Devenez essentialiste. Et pour ça, du coup, pour comme on sent que c'est un processus et que c'est un processus qui peut être vraiment assez challengeant, et ben n'hésitez pas on peut te contacter comment, Christelle, via christelleattic.fr?
Oui, c'est ça, via le site ou via Instagram sur Christelle Attic Home Organizer. Mais voilà, vous avez toutes les infos sur le site internet, là où vous trouvez le podcast, et vous pouvez poser toutes vos questions. On vous répond avec plaisir. Et donc, si vous pouvez aller nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou iTunes, un commentaire pour nous poser vos questions ou tout simplement nous encourager. Et ben, nous, ça nous fait très plaisir.
Waouh, merci, merci beaucoup. Bah, merci à toutes nos auditrices. Merci à toi, Christelle, pour tous ces partages de connaissances. Je trouve ça super intéressant. Et hâte, du coup, d'être là pour un nouvel Autostorm, pour apprendre encore plein de choses, pour être serein et efficace dans notre quotidien.
Et exploser le cadre.
Gros bisous. Ciao, ciao.
Keep cool.
Keep cool.